Kiosque Magazine.
Jeudi 2 juillet, et si vous avez déménagé hier, je formule le vœu que vous ayez eu le temps de sécher depuis parce que c'était pas une belle journée pour ça, loin de là. Évidemment, vous écoutez Kiosque Magazine et on va vous parler d'économie et d'emploi, ça va vous changer de vos cartons. À nos micros, donc, Éric de Belval et moi-même, François Brodeur, pour la prochaine heure. Qu'avez-vous prévu, Éric?
Alors, François, c'est difficile de commencer l'émission sans parler de la Grèce. Évidemment, c'est le sujet qui revient d'heure en heure à l'oreille de tout le monde. Et on sait qu'il y a des échéances, des parlottes, etc., et que ça n'en finit pas. Moi, avant de vous dire ce que j'ai prévu de vous citer comme article, je voudrais résumer la situation parce que je ne peux pas m'en empêcher. C'est très simple, la Grèce. La Grèce, ça fait 8 siècles qu'on attend que ça soit un État. Quand on aura résolu ce problème, on aura résolu la question. Bon, cela dit, mon sujet, c'est un sujet de réflexion plutôt que d'actualité, parce que ces allers-retours ne débouchent sur rien. Donc, une petite plongée locale, ce qu'a tenté un journaliste en déplacement à Athènes pour mieux comprendre les effets de la crise au milieu de tous ceux qui la vivent. Ensuite, retour au Québec. Tout le monde connaît le refrain, hein, c'était mieux avant. Eh bien, on le lit dans toutes les publications, à toutes les époques. Même Voltaire pensait que la vie était meilleure au XVIIe siècle. Et on est souvent persuadé sur le plan économique que notre vie était plus confortable durant la dernière décennie ou les 3 dernières. Eh bien, on va s'apercevoir qu'au Québec, c'est faux. Et puis, je termine sur les mines. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Et là, il faut vraiment en parler parce que le comportement de l'industrie minière, hein, rappelez-vous, en Érythrée, les mines canadiennes qui emploient des esclaves, c'est pas joli. Leur appétit est sans limite et les autorités semblent respecter fortement cet appétit parce que la plus grande mine à ciel ouvert au Canada vient de recevoir l'autorisation de démarrer sa construction ou en Abitibi.
Et pour ma part, je vous parle de l'autoroute fluviale. En fait, c'est le plan maritime de Philippe Couillard qui s'annonce à l'actuel gouvernement, ce que le plan Nord était au gouvernement Charest jadis. Je vous parle également de celui du nouveau plafond et d'une étude qui tend à démontrer que ça ne profite vraiment, mais alors là, vraiment qu'aux plus riches des Canadiens. Et finalement, l'accord de libre-échange avec l'Europe, eh bien, sachez que le ministre des Affaires extérieures de la France le confirme, elle ne signera pas dans l'état actuel. On revient là-dessus en fin d'émission et tout ça, ça commence dans quelques instants. La semaine dernière déjà, je m'étais préparé à vous faire un topo sur la Grèce et à vous dire « ça y est, c'est réglé, on avait la réunion de la dernière chance et elle est terminée ». Eh bien, il y a eu d'autres réunions de la dernière chance depuis, encore une autre réunion de la dernière chance depuis. Et comme ça ne débloquait pas, eh bien, le gouvernement de Tsipras, semble-t-il, a joué le tout pour le tout. Il a convoqué un référendum pour avoir soit le peuple derrière lui, soit un mandat de signer ce que sont les offres actuelles. C'est vraiment qui est tout double, on s'entend, parce que si le peuple grec décide de voter non au référendum et donc en appui à son gouvernement, ça veut dire que le gouvernement grec, à ce moment-là, rejette les dernières offres de l'Europe, du FMI puis de la Banque centrale européenne. Alors que s'il dit oui, eh bien, Alexis Tsipras est complètement désavoué, il signe et il lève les pattes, en gros.
Oui, c'est un jeu où tout le monde perd. Tout le monde perd, l'Europe, la Grèce et probablement le monde. Je vous le disais tout à l'heure, le problème, c'est pas de jouer à ces jeux minimalistes, c'est d'essayer de faire de la Grèce un véritable État moderne. Ça fait 8 siècles qu'on attend ça et si on n'ouvre pas les yeux là-dessus, il se passera strictement rien. Alors, j'ai eu le même réflexe que vous, François, j'ai lu tous les articles tout le temps, je vais pas dire tous les jours, mais toutes les 2 heures qui paraissaient sur la Grèce et ça m'a semblé impossible d'arriver avec quelque chose de frais puisque tout ce qu'on lisait était démenti par tout ce qui allait suivre, y compris ce matin, je pense. Par contre, j'ai trouvé qu'une journaliste du Devoir, Francine Pelletier, avait fait un exercice fort intéressant en allant tout simplement se plonger dans la rue à Athènes, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait dans la tête d'un citoyen grec quand il était devant un guichet, un distributeur automatique de billets fermé.
Et avant de vous laisser commencer, je recommande aussi dans ce registre-là le texte de Gabriel Nadeau-Dubois paru dans le Devoir d'aujourd'hui qui est excellent. Il a fait le même exercice.
Très bien. Alors, l'article a d'ailleurs un titre un petit peu provocateur, « Le chantage des banques ou comment devenir marxiste en 5 jours ». Communiste me lance sitôt la porte du taxi refermée, l'imposant Athénien derrière le volant. Je déduis de son air bourru que malgré l'histoire glorieuse du Parti communiste de Grèce, il a été l'échine de la résistance durant l'occupation nazie, il n'apprécie guère le genre. Socialiste, finis-je par bredouiller, ne me rendant pas compte que je venais de m'allier au parti qui est aujourd'hui entièrement discrédité, le mouvement socialiste panhellénique, le fameux PASOK, on s'en souvient peut-être encore, qui n'a de socialiste que le nom, après avoir été le principal responsable de la vente aux enchères du pays depuis 5 ans. Mais le chauffeur, au moins, semble rassuré. Rien n'est simple dans le lieu de naissance de la démocratie et de la grande tragédie. Ça m'énerve qu'on revienne constamment sur cette idée. Il faut quand même rappeler que la démocratie à Athènes, c'était interdit aux femmes, bien entendu interdit aux esclaves, et que ça ne concernait qu'un nombre assez restreint de praticiens.
En fait, 10% de la population votait.
C'est quand même un petit peu loin de la démocratie telle que l'a décrit, par exemple, Tocqueville. Bon, passons. À quelques jours de l'échéance des pourparlers entre la Troïka européenne et la Grèce, la vie suit son cours normal, mais la tension est quand même palpable, comme le démontre l'accueil à rebrousse-poil de notre chauffeur de taxi. D'ailleurs, vendredi, le Premier ministre Tsipras a annoncé vouloir soumettre le résultat de ces pourparlers au peuple grec par référendum. Oui, hein, je précise que l'article a quelques jours, donc si on a des effets, des flashbacks comme ça, un petit peu bizarres, il ne faut pas s'en étonner. Mon caméraman et moi sortons du Résistance Festival 2015, un mouvement de force progressiste qui appelle à la mobilisation grecque et à l'appui international. L'année dernière, l'invité d'honneur était nul autre qu'Alexis Tsipras, alors chef de l'opposition, aujourd'hui Premier ministre du pays. Cette année, l'honneur va au vice-président bolivien Alvaro Garcia Linera, venu rappeler à ceux qui détiennent le destin de l'Europe dans leurs mains qu'une autre voie est possible. Les peuples ne doivent rien au FMI, c'est le FMI qui doit quelque chose, dira l'ancien guerriero. Voilà du langage révolutionnaire qui ne nous rassure pas. Personne sur place n'a besoin d'être convaincu. C'est précisément le refus des mémorandums qui explique la popularité croissante de Syriza, passée d'un chétif 4% en 2004 à 48% aujourd'hui. Me vient des pensées noires parce que je pense à l'année 1933, l'année où M. Hitler a été élu démocratiquement. Passons. La majorité des Grecs en ont soupé des mesures imposées par la nouvelle Rome, le triumvirat constitué du Fonds monétaire international, de la Commission européenne et de la Banque de la Commission européenne. Depuis 2008, la Grèce a vu son PIB chuter de 42%, le chômage grimper à 27%, 50% chez les jeunes, son réseau public de radiodiffusion fermé, ses services de santé amputés. La plus longue récession jamais connue en Europe en temps de paix, selon la Commission pour la vérité sur la dette publique. La dette n'est pas le résultat de dépenses excessives, restées plus faibles que les dépenses publiques d'autres pays de la zone euro, mais un concours de circonstances incluant les taux extrêmement élevés des banques européennes et une augmentation drastique de la dette privée suivant l'adoption de l'euro en 2001. Il faut rappeler que la Grèce est un pays qui a un excédent primaire, qui est en excédent primaire. Ça veut dire quoi? Que les impôts sont supérieurs aux dépenses publiques. Hein, et ce n'est pas le cas de bien des pays européens. Le seul problème, c'est qu'on n'industrialise pas et qu'on n'investit pas. C'est ça le vrai problème. Ce qu'on sait encore moins, c'est que depuis l'élection de Syriza en janvier dernier, on s'est fait un plaisir de tourner la fourchette dans l'œil du nouveau gouvernement. Une semaine après l'élection, le chef de la BCE, Mario Draghi, sans la moindre justification, raconte le journaliste et député européen de Syriza, Stelios Kouloglou, fermait la principale source de financement des banques grecques, remplacée par l'Emergency Liquidity Assistance, un dispositif plus coûteux devant être renouvelé chaque semaine. À noter que 90% de l'argent prêté à la Grèce revient déjà aux créanciers, parfois la journée même, puisqu'il s'agit du remboursement de la dette. Aussi, l'accord liant le pays de Périclès aux banques européennes oblige à respecter le droit anglais, un autre accro à la souveraineté. Je rappelle que Périclès, c'est le 4e siècle, et que le 4e siècle, c'est l'apogée de la Grèce.
Avant Jésus-Christ, le 4e siècle.
De ne pas l'avoir précisé. Avant Jésus-Christ, c'était mieux. Depuis début février, les 18 ministres des Finances de la zone euro servaient un ultimatum au 19e ministre de la famille européenne, Yanis Varoufakis. Ou bien le gouvernement Syriza appliquait le même programme que ses prédécesseurs, ou il trouvait son financement ailleurs. Il n'en fallait pas plus pour que les rumeurs de la faillite en Grèce, due à son retrait de la zone euro, partent en trombe. Depuis, la BCE a retenu des fonds illégalement, allant jusqu'à les transférer au Luxembourg, comme si l'on craignait que les Grecs ne se changent en détrousseurs de banques. Les campagnes diffamatoires dépeignant les dirigeants grecs comme des têtes brûlées ou des enfants irresponsables, il nous faut des adultes dans la salle, dira fameusement la présidente du FMI, Christine Lagarde, vont bon train. C'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité, parce que moi je veux bien qu'on les appelle irresponsables. J'en dirais largement autant des dirigeants européens, des 9 personnes en charge du dossier à Bruxelles qui pensent toutes qu'elles sont les seules capables d'être les interlocuteurs et qui, au fond du compte, se conduisent à leur niveau exactement comme les Grecs.
Et je reviens sur une épithète qu'on colle à Syriza tout le temps, la gauche. gauche radicale, alors qu'elle n'a rien de radical dans ses revendications, ce serait plutôt le reste de l'Europe qui est intransigeant.
Absolument. Seulement, la souveraineté économique ne fait pas partie du mandat dont a hérité Alexis Tsipras en janvier dernier. Les gens veulent en finir avec l'austérité tout en restant dans la zone euro. Une mission qui s'avère de plus en plus impossible vu l'intransigeance européenne. Qui des deux partis alors cédera ? Le néolibéralisme pur et dur préconisé par le Nouvel Empire osera-t-il se montrer plus humain, plus compréhensible envers la Grèce, si ce n'est de peur de la pousser dans les bras de Poutine ? Il y est déjà. Ou alors Syriza mettra-t-elle suffisamment d'eau dans son vin au point de perdre son âme et fort probablement les prochaines élections ? Les jeux sont ouverts et combien dangereux, particulièrement pour la Grèce qui risque de payer encore une fois plus qu'elle ne le mérite.
Je reviens, moi, un tout petit instant sur l'aide, la fameuse aide aux Grecs. L'Europe, effectivement, arrête pas de... L'Europe, le FMI, la Banque centrale européenne n'arrête pas de faire état de l'aide au peuple grec. Il faut savoir que cette aide-là, en fait, elle a surtout été dévolue aux banques à qui la Grèce devait de l'argent. En fait, tout cet argent-là a servi à sauver les fesses de banques françaises et allemandes pour la plupart en transférant la dette au FMI, à la Banque centrale européenne, ce qui fait que les Grecs n'ont pas vu la couleur de cet argent-là, leur économie s'est écrasée, leur taux de chômage a explosé et on appelle ça de l'aide.
Et il y a un autre mot, c'est la cavalerie.
C'était semaine importante pour Philippe Couillard. En fait, ça aurait dû être voilà deux semaines, mais le décès inopiné de Jacques Parizeau, qui joue ainsi sa dernière farce aux libéraux, a forcé le gouvernement Couillard à en reporter l'annonce. Donc, la stratégie maritime du gouvernement du Québec, ce fer de lance de sa relance économique, a donc été publiée. On apprend, entre autres, que le gouvernement prévoit dépenser jusqu'à 5 milliards de dollars, ou 4, je ne me rappelle plus, je verrai ça au cours du texte, en période de récession. On voit où sont ses priorités. D'ailleurs, on ne va quand même pas financer des écoles pour priver des armateurs. Il y avait différents textes qui sont sortis. J'en ai choisi un et je vais essayer de retenir mes commentaires, mais ça va être difficile. L'autoroute fluviale, c'est un texte de Bernard Descoteaux paru dans Le Devoir de ce matin. Le premier ministre Philippe Couillard a dévoilé lundi la stratégie maritime de son gouvernement. Sur papier, tout est beau, voire intéressant. Reste maintenant à passer de la théorie à la pratique. C'est là que surgiront les obstacles et les problèmes, comme pour le plan Nord, ajouta l'animateur. Cette stratégie maritime, Philippe Couillard en avait fait un enjeu électoral pour l'opposer au projet Saint-Laurent défendu alors par le chef de la Coalition Avenir Québec, François Legault. Celui-ci proposait d'aménager le long du Saint-Laurent, dans des friches industrielles, des parcs de haute technologie. Le projet du gouvernement libéral est d'une toute autre nature. Il s'agit de favoriser le transit de marchandises et de personnes sur cette autoroute fluviale qu'est le Saint-Laurent pour qu'il redevienne la porte d'entrée principale de la partie nord-est du continent. Cette stratégie a été accueillie favorablement par tous les milieux économiques. La perspective d'investissement de 9 milliards sur un espace de 15 ans avec la création à la clé de 30 000 emplois suscite des espoirs en ces temps où le discours gouvernemental met l'accent bien davantage sur l'austérité budgétaire que sur la création de la richesse qui vient de nouveaux emplois. La disproportion des efforts mis à redresser les finances publiques et ceux destinés au développement économique est évidente. Si, venant après la version 2 du plan Nord, l'adoption de la stratégie maritime marque un recentrage des priorités gouvernementales, on doit de fait se réjouir. Au cœur de cette stratégie se trouve la modernisation des infrastructures de transport et d'expédition des marchandises pour les intégrer à la chaîne logistique qui dessert le marché du Nord-Est américain. Cela va au-delà des installations portuaires. On veut notamment soutenir le développement d'infrastructures intermodales avec des pôles logistiques à Contrecœur et Vaudreuil-Soulanges qui permettront une fluidité du transport des marchandises entre les modes maritimes et terrestres. Je fais ici un aparté pour dire que le port de Montréal et le Canadien Pacifique ont dénoncé le projet à Vaudreuil-Soulanges puisque c'est le terminal d'une ligne de chemin de fer qui va directement au port de New York, ce qui fait que le port intermodal pourra avoir l'effet contraire de celui qui est recherché. Tout cela est bien, sauf qu'il manque à la réalisation de ces projets un partenaire essentiel. Le gouvernement fédéral, qui a un rôle majeur à y jouer, n'y est pas associé. Les ports du Saint-Laurent sont placés sous son autorité. Tous sauf deux lui appartiennent. C'est lui qui réglemente par ailleurs la navigation sur le fleuve. C'est lui qui accorde les budgets de réfection des installations portuaires. La question n'est pas de savoir si Ottawa est d'accord ou pas avec les objectifs du gouvernement du Québec. La question est plutôt de savoir si les mesures proposées correspondent aux priorités du gouvernement fédéral. Comme dans tous les projets d'infrastructure que finance Ottawa avec les provinces, ce sera l'objet de débats longs et souvent stériles. Il n'y a qu'à voir la réponse qui se fait attendre quant à la participation fédérale à l'aménagement d'une nouvelle gare maritime dans le Vieux-Port, à Montréal. Ce n'est pas demain que les choses changeront à cet égard. Prévoyons déjà des retards dans la mise en œuvre du plan québécois. La participation du gouvernement fédéral sera encore plus vitale pour le volet environnemental de la stratégie québécoise, qui met l'accent sur la mise en valeur responsable du Saint-Laurent. L'augmentation du transit de marchandises par le fleuve entraînera un accroissement des risques d'accidents, d'autant qu'existe une volonté affirmée des pétrolières et du gouvernement Harper d'acheminer une partie du pétrole de l'Ouest par le Saint-Laurent. Le projet de construction d'un port pétrolier à Cacouna, envisagé par TransCanada dans le cadre du projet Énergie Est, est abandonné. Mais d'autres projets sont à l'étude, dont le transbordement de pétrole depuis le port de la ville de Québec. Là-dessus, le Québec n'a aucun pouvoir de réglementation, pas plus qu'il n'en a sur le transport de pétrole par convoi ferroviaire à travers son territoire. Le Saint-Laurent est un système économique. Il peut être une source de développement économique. Il le sera pour peu qu'on ne le considère pas comme une simple voie de transit vers ailleurs. Cela, le gouvernement Couillard semble l'avoir bien compris. Le Saint-Laurent est aussi un écosystème biologique fragile. Le souci de le protéger, qu'on trouve dans cette stratégie maritime, s'il est sincère, exigera vigilance et fermeté de la part de Québec face au projet des transporteurs. Cela n'aura toutefois de réels effets que s'il convainc Ottawa de partager sa vision et de s'associer à la mise en œuvre de ses projets. Et je reviens là-dessus en conclusion pour vous signaler qu'au lancement de la politique, aucun représentant du gouvernement fédéral n'était sur place. On a demandé au cabinet du ministre Lebel, qui est responsable du Québec au gouvernement Harper, pourquoi c'était le cas. Eh bien, ils n'ont pas été invités. Alors, on n'a pas invité le gouvernement fédéral à une politique de lancement qui concerne ses ports, sa compétence propre en matière de navigation maritime, d'exportation. Ça va mal, ça s'annonce mal.
Là-bas, sur le fleuve, y a-t-il une lumière qui brille dans la nuit? Ciel et mer, se passe, et se tait le temps et tourne la terre. L'endroit à l'envers, comme un papillon sourd qui valse au-dessus des mers. La montagne veille dans l'ombre, les vagues la baie, je gronde et raconte le bout du monde. Sourire figé dans les courants de l'azur, le bateau espère comme un enfant. Quand les oiseaux montrent le chemin, mieux qu'instrument de marin. Plus la lumière se passe, plus se tait le temps et tourne la terre. L'endroit à l'envers, comme un papillon sourd qui valse au-dessus des mers. Viendras-tu avec moi? Le bateau nous prend comme des poissons dans les filets d'argent. Que tend la lune sur l'océan? bateau nous prend comme des poussières de coquillages qui s'accrochent ensemble quand soufflent les grands vents du large.
Sur le fleuve, un choix musical de Rémi Hermoso qui assure comme chaque semaine la mise en onde de cette émission et la direction de ces amateurs défavorisés par la nature. Voilà, je l'ai dit. Ça nous amène à parler de ce troisième sujet, donc, et de cette chaise qui craque vraisemblablement.
Oui, que faire? Que faire? Elle craque sous le poids de vos arguments, forcément, François. Oui, vous savez, on parle souvent de dogme dans cette émission, parce que c'est un mot qu'on associe un peu rapidement, parfois, à économie. Le dogme, je rappelle, c'est une croyance sans fondement rationnel. Et il y a à côté du dogme, il y a la démonstration, hein, qui est peut-être un petit peu plus dense et qui peut mener à une opinion. Alors, il vaut mieux éviter le dogme, qui mène à rien, et puis préférer l'étude et l'analyse. Et ce principe, voyez-vous, eh bien, il s'appliquerait assez bien à la comparaison entre notre niveau de vie dans le passé.
Rationaliste, va des rétro.
Mais pas du tout, pas du tout. C'est de la pure raison. Donc, comparer à celui d'aujourd'hui. Et ça a intéressé Francis Vaille dans un article de la presse qui s'est demandé si les Québécois s'appauvrissaient. Alors, le refrain est connu. Les Québécois se sont appauvris depuis les belles années 70. Or, en ce lendemain de Saint-Jean-Baptiste, une étude fouillée vient complètement changer le portrait de l'appauvrissement au Québec. Ça, je suis sûr que ça vous fait du bien d'entendre ça, François, non ?
Ah, allez-y.
Non, mais bon. L'étude a été réalisée par deux des chercheurs les plus versés en matière de fiscalité et de finances publiques au Québec, soit Luc Godbout et Suzy Saint-Cerny de l'Université de Sherbrooke. Luc Godbout est l'économiste qui a présidé la commission d'examen sur la fiscalité, entre autres. Depuis quelques années, pas un mois ne passe sans qu'on entende dire que les Québécois s'appauvrissent, en particulier les plus pauvres. Pour tirer une telle conclusion, les analystes s'en remettent souvent aux revenus moyens par famille. La question chicote les deux chercheurs depuis un certain temps. Les revenus de la famille type a essentiellement stagné, le revenu pardon, de la famille type a essentiellement stagné, certes, mais la famille type n'est plus ce qu'elle était. Aujourd'hui, la famille moyenne est composée d'un nombre probablement moins grand de personnes, si bien que les comparaisons avec la famille type des années 70 sont bancales. Par exemple, les personnes seules représentent 37% des ménages aujourd'hui, comparativement à 22% en 1976. Ça d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit un gros progrès. Ainsi, les personnes seules qui ont un revenu moindre ont un poids plus important dans le revenu moyen de l'ensemble des ménages aujourd'hui qu'à l'époque, d'où la non-pertinence de cet indicateur pour mesurer l'appauvrissement relatif réel. Luc Godbout et Suzy Saint-Cerny ont donc comparé le revenu des ménages de même taille et, ô surprise, tous les types de ménages ont connu une croissance appréciable de leurs revenus, riches comme pauvres, jeunes comme vieux. Leurs comparaisons sont basées sur le revenu médian des divers ménages, le point au milieu de chaque groupe comparé, un indicateur plus fiable que le revenu moyen qui est influencé par les extrêmes. Tout est exprimé en dollars constants de 2011, les plus récentes données comparables, c'est-à-dire corrigées des effets de l'inflation. Voyons voir. En 2011, le revenu médian de l'ensemble des ménages s'élevait à 40 300 dollars, soit 17% de moins qu'en 1976, 48 700 dollars. Après impôts et transferts gouvernementaux, le recul est de 3,4% à 44 900 dollars en 2011. Ce chiffre illustre en quelque sorte la stagnation relative des revenus souvent évoqués. Maintenant, quand les chercheurs comparent plutôt les revenus des mêmes types de ménages, le résultat s'inverse complètement. Ainsi, les couples sans enfants ont vu leurs revenus après impôts et transferts augmenter de 4%, les personnes seules de 25% et les familles biparentales de 33%. Même les personnes âgées et les familles monoparentales ont vu leurs revenus croître significativement, respectivement de 26 et 61%. En bout de piste, la société québécoise a accompli des progrès, constatent les chercheurs, car les unités familiales comparables ont un revenu médian après impôt plus élevé. Cette conclusion est tout aussi nette quand on compare les quintiles de revenus, c'est-à-dire les cinq tranches de revenus qui composent la population, du plus pauvre au plus riche quintile. En 2011, la famille biparentale du quintile le plus pauvre gagnait 41 750 dollars de revenus médians après impôts et transferts gouvernementaux. Ces revenus dépassent de 10 365 dollars ceux qu'en 1976, soit une hausse relative de 33%. La croissance des revenus médians depuis 1976 est de 40% pour le deuxième quintile, de 38% pour le troisième quintile, de 35% pour le quatrième quintile et de 24% pour le quintile le plus riche. Même constat pour la famille monoparentale. Le revenu médian après impôts et transferts a bondi de 28% pour le premier quintile à 20 450 dollars, une croissance semblable à celle du quintile de revenus les plus élevés, 30% à 70 225 dollars. Entre ces deux niveaux de revenus, les trois autres quintiles ont progressé respectivement de 85, 86 et 32 %. Encore une fois, il s'agit de revenus comparables, c'est-à-dire une fois l'effet de l'inflation retranché. Qui aurait pu croire que le revenu des plus pauvres avait cru de 28 à 33 % depuis 35 ans ? Cela dit, il est possible que les exigences de consommation soient plus grandes aujourd'hui qu'à l'époque, bien qu'il ne soit toujours clair qu'il s'agisse de besoins essentiels. Par exemple, certaines familles ne peuvent se priver de leurs deux voitures ou de leur téléphone intelligent, ce que les familles n'avaient pas à l'époque. Est-ce vraiment toujours nécessaire ? Le portrait pourrait-il avoir changé depuis 2011 ? Rien ne permet de penser que les mesures de retour à l'équilibre budgétaire pourraient avoir modifié radicalement cette tendance de long terme, répond à ce sujet Luc Godbout. Par ailleurs, l'étude ne fait pas les mêmes comparaisons pour les autres provinces canadiennes. Il est possible que certains types de ménages aient vu leurs revenus augmenter plus fortement ailleurs qu'ici, notamment les couples riches, sans enfants. Par contre, on pourrait s'attendre à ce que d'autres ménages soient plus avantagés au Québec en raison des mesures de redistribution, notamment les couples avec enfants de la classe moyenne et les familles monoparentales.
Mauvaise nouvelle, si vous profitez du régime québécois en matière d'assurance médicaments, eh bien sachez que la prime maximale va être majorée de 4,7%, que la franchise va être augmentée et que la barrière de co-assurance également. En pratique, ça revient à dire que, bon, on n'augmente pas vos impôts, mais vous allez payer plus cher pour tout ce dont vous avez besoin.
C'est pas une très bonne nouvelle. J'en ai une autre qui n'est pas bonne non plus. En ces temps de déménagement partout au Québec, eh bien, les expulsions de locataires sont en hausse. Hein, et selon l'Association des propriétaires du Québec, c'est une hausse de 6 % par an.
Et enfin, sachez que le mois d'avril au Canada a marqué une légère régression du produit intérieur brut, ce qui fait suite à une régression du premier trimestre. Et si encore deux mois à ce chapitre-là de régression, eh bien, nous serons officiellement en récession. Voilà, qui clôt la première demi-heure de cette émission. On se retrouve dans quelques instants. Restez là.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Deuxième demi-heure donc, et on commence immédiatement en vous parlant de CELI. On revient sur cette décision du gouvernement conservateur de doubler le plafond de contribution au compte d'épargne libre d'impôt, le CELI, au motif que beaucoup de Canadiens, notamment de la classe moyenne, en auraient bénéficié jusqu'à plus soif. Il y a une étude qui a été publiée récemment, une étude extraordinaire qui vient nous dire qu'on a enfin identifié ces Canadiens de la classe moyenne qui peuvent se permettre de contribuer au CELI. Je vous lis le texte du Devoir, donc d'Éric Desrosiers, publié le 30 juin. Le CELI bénéficiait déjà à une minorité de nantis avant que les gouvernements ne décident d'en doubler le plafond pour le plus grand avantage de ces mêmes privilégiés, conclut une étude. Les Canadiens à faibles et moyens revenus ont profité des comptes d'épargne libre d'impôt, CELI, ont moins profité des comptes d'épargne libre d'impôt qu'on ne le croyait jusqu'à présent, révèle une étude dévoilée lundi par l'Institut Broadbent et basée sur des statistiques inédites obtenues par l'Agence du revenu du Canada en vertu de la loi de l'accès à l'information. On y apprend notamment que la proportion de contribuables qui ont les moyens de se prévaloir du maximum permis n'a jamais été tellement élevée et a brusquement chuté au fil des ans. Qui plus est, une bonne partie des individus à revenus modestes qu'on disait en avoir profité étaient en fait les conjoints et les proches parents de contribuables mieux nantis ayant atteint ce maximum. Réalisé par Jonathan Rhys-Kesselman, spécialiste en finances publiques de l'Université Simon Fraser et l'un des experts à l'origine de l'idée du CELI, l'étude prend à contre-pied le bilan généralement positif qu'on dressait jusqu'à présent de la première phase du programme instituant en 2009. La récente décision électorale du gouvernement Harper de porter la limite des cotisations permises de 5 500 à 10 000 $ a été beaucoup plus fraîchement accueillie par de nombreuses voix, y compris celle du directeur parlementaire du budget, Jean-Denis Fréchette, qui a prévenu que le changement profitera surtout aux 20 % des ménages les plus nantis et privera à terme le gouvernement fédéral et provinciaux de milliards de revenus. La nouvelle étude taille en pièces l'argumentaire du gouvernement et montre que peu de Canadiens à faible revenu ou moyen profiteront de façon importante de cette politique, a déclaré Jonathan Rees-Kesselman. La proportion de contribuables qui ont un CELI est passée de 18 % en 2009 à 38 % en 2013, dernière année pour laquelle des données sont disponibles. La première année, près des deux tiers, 64 % en fait, des détenteurs ont atteint la limite de cotisation permise, indiquant au gouvernement fédéral que ce plafond était trop contraignant. Mais la proportion de détenteurs du CELI ayant atteint le maximum a rapidement diminué par la suite, à mesure que s'accumulaient au fil des ans les cotisations permises pour ne plus être que de 18 % en 2013. Le fait d'avoir atteint sa limite de cotisation est toutefois moins une question d'âge qu'une question de niveau de richesse, constate l'étude d'une vingtaine de pages de l'Institut Broadbent. Intrigué de voir qu'on attribuait, par exemple, presque 20 % de la valeur de l'ensemble du CELI à des particuliers ayant un revenu inférieur à 20 000 $ c'est quand même particulier de réussir à épargner 5 500 $ quand on a un revenu de 20 000 $ par an, oui, et 26 % des contribuables gagnant entre 20 000 et 40 000 contre seulement 47 % pour tous ceux qui gagnent 60 000 et plus, Jonathan Rees-Kesselman a refait les mêmes calculs en regardant cette fois les revenus de l'ensemble de la famille. Il a constaté un renversement complet des proportions. Les familles gagnant 60 000 $ et plus détenant près de 70 % de l'ensemble des CELI. L'expert en déduit qu'une bonne proportion des détenteurs de CELI à revenus modestes sont en fait les conjoints, enfants de plus de 18 ans vivant encore à la maison et autres proches parents de riches contribuables ayant atteint leur propre limite de cotisation permise et qui profitent de la possibilité qui leur est offerte de transférer une partie de leurs avoirs à des membres de leur famille. L'étude démontre que de façon disproportionnée, ce sont les mieux nantis qui profiteront des avantages qu'offre le nouveau plafond augmenté du CELI, ce qui encouragera le transfert d'avoirs et le fractionnement du revenu plutôt que la nouvelle épargne. Disant ne pas vouloir priver ses citoyens d'un avantage fiscal accordé aux autres Canadiens, le gouvernement du Québec a annoncé il y a une dizaine de jours qu'il allait suivre Ottawa dans sa décision d'augmenter le plafond du CELI. Outre le fait qu'elle ne profiterait surtout aux plus riches, la mesure s'est attirée de nombreuses critiques pour son impact sur les finances publiques. Alors, on le voit, on a enfin découvert qui étaient ces contribuables moins fortunés qui cotisaient à fond dans leur CELI. Ils font avec l'argent de leurs conjoints, mari, épouse, plus riches qu'eux. Voilà. Choquant.
Bien, eh bien, une de plus. Une de quoi, allez-vous me dire? Eh bien, une mine de plus, et non des moindres. On vient d'autoriser la construction en Abitibi de la plus grosse mine à ciel ouvert au Canada. Et les mêmes questions, plutôt les mêmes problèmes, reviennent. Quel est le prix en termes d'impact sur l'environnement, entre autres, hein? Il est énorme. Alors, ça a intéressé Alexandre Shields, qui nous parle souvent de ces sujets, avec talent. Dans Le Devoir du 26 juin, je vous lis son article. Sans faire grand bruit, le gouvernement Couillard a autorisé jeudi la construction en Abitibi de la plus grosse mine à ciel ouvert au Canada. Québec pourrait d'ailleurs participer financièrement au projet de Royal Nickel Corporation, qui nécessitera des investissements de 3 milliards de dollars. Cette énorme mine suscite toutefois des inquiétudes en raison des dépassements de normes environnementales liées à cette industrie, mais aussi des impacts sur les populations. C'est drôle comme ces deux termes, dépassement des normes et impact sur les populations, c'est systématiquement accolé à la notion de construction de mine. De l'aveu même de l'entreprise, l'entreprise avoue quelque chose d'intéressant, le gisement de nickel Dumont, situé à 25 km à l'ouest d'Amos, est gigantesque. La production totale, qui doit s'échelonner sur une période de, tenez-vous bien, 33 ans, est évalué à 4,63 millions de tonnes de concentré de nickel. Au plus fort de l'exploitation, cette mine devrait même être la cinquième du genre dans le monde. Une telle mine à ciel ouvert transformera d'ailleurs profondément le paysage de cette région de l'Abitibi, À elle seule, la fosse atteindra une longueur de près de 5 km de longueur sur 1,4 km de largeur. C'est près de deux fois ce que prévoyait la mine d'or de Malartic au moment d'obtenir le feu vert du gouvernement Charest.
Donc, il faut cependant dire, dans le cas de la mine d'or de Malartic, qu'elle est située en ville, ce qui est encore plus singulier.
C'est vraiment génial. Mm-hmm. La profondeur de la fosse devrait dépasser les 560 mètres. En vertu de la législation en vigueur, la minière n'est pas tenue de la remblayer une fois l'exploitation terminée. C'est vraiment extraordinaire, ça. Hein? Bon, écoutez, c'est très simple. Moi, je fais des ordures chez moi. Je vais les mettre sur le trottoir. Après tout, je ne suis pas tenu de faire quoi que ce soit. Hein? Mm-hmm. Ça serait bien, hein? On devrait tous faire ça. Elle sera en outre entourée de montagnes de résidus et de roches stériles, dont la plus élevée atteindra une hauteur de 85 mètres. Peut-être une station de ski, non? Je ne sais pas. Jusqu'à 400 000 tonnes de matière brute pourraient être extraites chaque jour durant l'exploitation. La consommation quotidienne d'eau de la mine devrait en outre... Alors attendez, hein, parce que là je vais vous annoncer le chiffre, j'espère que vous êtes assis. Je répète, c'est la consommation quotidienne d'eau de la mine, 100 millions de litres. Mmh. L'automne dernier, le BAP, c'est le Bureau d'audience publique sur l'environnement, avait jugé que cet imposant projet était acceptable. Mais l'organisme avait aussi noté un certain nombre de préoccupations. Il soulignait ainsi dans son rapport la nécessité de mettre en œuvre les mesures appropriées à l'égard des eaux souterraines et de surface, du climat sonore et de l'air. Ça me rappelle les commissions qui estiment que la peine de mort, c'est acceptable à condition de la rendre humaine, ce genre d'oxymore. Contrairement à ce que souhaitait faire Royal Nickel, le rapport d'enquête concluait par exemple que l'eau utilisée par la minière ne devrait pas être rejetée directement dans la nature. Le BAP recommandait plutôt de passer par un dispositif permettant de vérifier la qualité avant le rejet. C'est merveilleux ça. Je la vérifie. Oh, elle est mauvaise. Ah oui, mais je l'ai vérifiée.
Mm-hmm. En fait, on parle ici de bassins de rétention successifs qui permettent justement d'éviter une catastrophe.
Oui. Dans son communiqué publié en après-midi jeudi, le gouvernement Couillard a justement affirmé que des améliorations ont été apportées par Royal Nickel Corporation et plusieurs gains pour l'environnement ont été obtenus. Selon les éléments mentionnés, l'entreprise devra notamment mesurer le bruit et les poussières générées, faire le suivi de la qualité des eaux à l'effluent minier, élaborer un plan d'urgence détaillé et poursuivre le dialogue avec les communautés. Le projet d'exploitation de mine du Mont est un bel exemple de projet qui conjugue les trois piliers de développement durable, soit le développement économique et social et la protection de l'environnement, a d'ailleurs soutenu le ministre de l'Environnement, David Hurtel, par communiqué.
Oui, je tiens à dire ici qu'il est ministre de l'Environnement et du Développement durable et qu'il a dit une imbécilité pareille, ça en est sidérant.
C'est extraordinaire, oui. La documentation publiée en appui à la décision de Québec se résume toutefois à un communiqué et un résumé succinct des mesures, le tout publié en plein été et sans préavis médiatique précis concernant cette annonce. L'agenda officiel du ministre de l'Environnement évoquait simplement une annonce concernant la municipalité de Launay qui borde l'imposant projet. Je vous rappelle que l'étymologie de agenda, c'est du latin et ça veut dire ce qui doit être fait. Hein, pas ce qu'on va faire, mais ce qui doit être fait. Bien. Pour la coalition Québec Meilleure Mine, les inquiétudes demeurent cependant vives. On doit revoir les normes qui encadrent les grandes mines à ciel ouvert, surtout lorsqu'elles sont situées près de milieux habités ou encore de milieux sensibles. Ce n'est pas une question de se dire pour ou contre ce type de mine, mais il est clair que les normes ne sont pas adaptées, a résumé son porte-parole Hugo Lapointe. Il a ainsi rappelé que les normes énoncées pour le projet de Royal Nickel sont similaires en matière de rigueur à celles qui prévalaient dans le cas du projet de Malartic. Pourtant, dans le cas de la mine canadienne Malartic, l'entreprise est à 157 avis d'infraction, on les avait commentés ici, depuis 2009. En fait, ce type de mine est absolument incapable, même en faisant des efforts, de respecter les normes en place. L'Institut national de santé publique du Québec a aussi publié cette année une étude qui démontre que la mine de Malartic a eu des impacts majeurs pour la population. Dans le cas de Royal Nickel, on retrouve des résidences à environ 500 mètres du complexe minier. Quant au village de Launay, il se trouve à moins de 2 km du plus gros des parcs à résidus. La Première Nation, Abitibiwini, de la réserve de Pikogan, a aussi réagi en soulignant qu'elle n'a pas donné son accord. Qui plus est, le gouvernement n'aurait toujours pas rempli son obligation de consulter et d'accommoder la communauté. Reste aussi la question du financement. Royal Nickel, dont le premier actionnaire est un mandataire basé à Toronto et qui appartient au groupe TMX, a besoin de 3 milliards de dollars. La valeur boursière de l'entreprise s'élève à 33 millions. La minière, qui a 6 lobbyistes inscrits au registre québécois, n'a pas rappelé le devoir pour préciser ses intentions. Est-ce que Québec pourrait participer au financement, comme cela se fait avec d'autres projets? Au ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations, on a refusé de s'avancer jeudi. Mais on confirme l'intérêt du gouvernement pour ce projet, qui doit créer entre 300 et 800 emplois en phase d'exploitation. Il n'y a pas de financement de confirmé dans le projet, mais l'émission du certificat d'autorisation va nous permettre de passer aux étapes suivantes, dont le montage financier. De notre côté, c'est certain que nous allons suivre ce projet avec un grand intérêt, a fait valoir le porte-parole du MDEIE, Armand Dubois. Tout ça est bien préoccupant.
Oui, en fait, ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est que le gouvernement, depuis une dizaine d'années, s'est peint dans un coin avec sa politique du plan Nord. Il faut que ça fonctionne. Il faut que ça fonctionne. Il faut créer des emplois. Et je ne critique pas la population abitibienne qui a besoin de ces emplois-là pour vivre. Mais c'est une catastrophe si ça se fait sans aucun contrôle et strictement dans une percée idéologique.
Décidé de perdre le Nord pour des diamants, de l'argent et de l'or. Il prétend vivre dans un pays libre, mais ignore que la nature est le parfait équilibre. Trop de consommation pour des biens matériels. On est en train de perdre le Nord et les enjeux sont réels. Vous profitez de la terre pour vos propres envies, sans même réaliser qu'elle nous mettait en vie. Vous voulez profiter pour une seule génération, mais ces terres nourrissent toute une population. Vous voulez déraciner tout le Nord québécois, mais un jour vous comprendrez que l'argent ne se mange pas. T'inquiète, j'ai compris, c'est une question business. Vous gouvernez un territoire rempli de richesses. Venez surtout pas me faire croire que cette terre vous appartient. C'est plutôt grâce à elle qu'on respire chaque matin. Je représente mon peuple à travers l'art et je vous annonce de leur part que le peuple en a marre. Mais on connaît vos politiques, des êtres obsédés. Là où il reste un peu d'air frais, vous devez le posséder. Vous faites même basculer notre chaîne alimentaire, assis bien au chaud sur la colline parlementaire. Vous pensez refaire le monde avec vos projets de loi, mais un jour vous comprendrez que l'argent ne se mange pas. J'ai vu sur cette terre les plus belles rivières, mais à cause de vos mines, les poissons ont le cancer. Nos ressources naturelles s'épuisent rapidement. Tout ça pour aller vivre près des tours de ciment. Les rivières sèchent, les arbres tombent, les avares se réjouissent car le dollar monte. Les esclaves de l'argent n'auront rien dans leur tombe. On fait tous des erreurs, mais à leur place j'aurais honte. On sera tous concernés quand la terre sonnera son heure. Je veux juste vous rappeler que vous commettez une grave erreur. Je suis honnête avec vous, votre politique me déçoit, mais un jour vous comprendrez que l'argent ne se mange pas. Cette terre, y a des gens remplis de sagesse, enfermés dans vos réserves, prisonniers de vos gestes, qui protègent ce territoire depuis la nuit des temps, parce qu'on habite cette terre depuis plus de 10 000 ans. Avez-vous pensé aux gens qui habitent ces forêts? Vous avez mal calculé l'impact de votre projet. Cette terre est fragile, sauvage et indemne, aussi riche et fertile qu'une terre africaine. On ne peut la posséder, cette terre nous a élevés, on doit la protéger, elle est mère de l'humanité. Le plan Nord repose sur une génération, je m'y oppose au nom de toute la nation. La nation.
Samiane qui chantait Plan Nord. Dernier gros sujet pour cette semaine, Christian Rioux du Devoir, il est le correspondant du Devoir à Paris, est allé obtenir l'heure juste auprès du ministre du Commerce extérieur français pour savoir, mais coudonc, monsieur le ministre, quid de l'AECG, de l'accord économique de libre-échange avec l'Europe, donc? Eh bien, vous allez voir que c'est loin d'être gagné. D'ailleurs, son texte s'intitule « La France ne signera pas sans modification ». Alors, on pensait que c'était dans la poche. La France ne ratifiera pas le traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Si des modifications importantes ne sont pas apportées au mode de règlement des différends. Pour le secrétaire d'État au commerce extérieur, Mathias Feckel, qui exprime la position officielle de la France, c'est non seulement une question de principe, mais une réalité aujourd'hui incontournable. Si les négociateurs ne réécrivent pas l'article 33 du traité qui porte sur le règlement des différends, il n'y aura pas de ratification. À l'évidence, si on fait des propositions et qu'elles ne sont pas reprises, il n'y aura pas de majorité en France pour ratifier ce traité, nous a confié le ministre dans une entrevue exclusive qui s'est déroulée au Quai d'Orsay. Selon Mathias Feckel, la France ne serait pas la seule à mettre son veto à un accord qui doit être ratifié à l'unanimité des 28 pays membres de l'Union européenne. « Regardez bien, » dit le ministre, « ce sera aussi le cas d'autres pays. On n'est pas dans une logique de menace, mais sur ce chapitre, il faut absolument que les choses puissent bouger. » Depuis plusieurs mois, le jeune ministre socialiste de 38 ans mène une véritable offensive afin de rendre impossibles les poursuites lancées par certaines multinationales contre les États. Tout cela au nom d'un libre-échange dévoyé, dit-il. S'appuyant sur la vaste consultation réalisée par l'Union européenne à l'occasion du lancement des négociations avec les États-Unis, Mathias Feckel a rapidement convaincu ses homologues allemands. Le 21 janvier, le ministre allemand de l'économie, Sigmar Gabriel, et le secrétaire allemand aux affaires économiques et à l'énergie, Matthias Maschnig, se joignaient à lui pour exiger des modifications à l'AECG. À la base, l'arbitrage était conçu pour protéger des entreprises contre des décisions arbitraires, des expropriations, des pillages de brevets, explique Mathias Feckel. Mais depuis plusieurs années, ces mécanismes servent à de grands groupes multinationaux pour attaquer des États non plus contre des décisions arbitraires, mais contre des choix de politique publique. C'est ainsi que Philip Morris a poursuivi l'Australie parce qu'elle avait adopté des lois anti-tabac. Le producteur et distributeur d'électricité suédois Vattenfall a fait de même avec l'Allemagne lorsqu'elle a décidé de sortir du nucléaire. La position de la France, c'est qu'il est inacceptable que des États puissent être condamnés par des juridictions privées pour des choix de politique publique, démocratique et souverain, dit M. Feckel. La position française se décline en trois points. Elle stipule d'abord qu'une entreprise ne pourra plus poursuivre un État pour ses choix de politique publique. Elle veut ensuite mettre fin au conflit d'intérêts dans la nomination des juges chargés de trancher ces différends. À terme, Mathias Feckel propose la mise sur pied d'un tribunal européen, une instance qui pourra ensuite être la plus multilatérale et internationale possible afin d'assurer une clarification du droit et des critères transparents pour la nomination de ceux qui sont appelés à trancher ces litiges. Nous souhaitons que cette position soit appliquée à tous les traités futurs de l'Union européenne, dit Mathias Feckel. À terme, la proposition française pourrait concerner les quelque 3000 traités de libre-échange qui existent dans le monde, dont une centaine signés par la France. Depuis 30 ans, trop de politiques ont accepté la dérégulation et la suppression des règles, dit le ministre. Un déséquilibre s'est instauré au profit des grandes entreprises, au détriment de la puissance publique et de la démocratie. Il faut inverser cette tendance. Et j'ajoute que je suis totalement d'accord avec Mathias Feckel sur le sujet. On le voit au Québec, par exemple, avec l'accord de libre-échange qui nous lie aux États-Unis ou au Mexique. Un jour, comme ça, il y a une entreprise qui a acheté des déchets américains. Elle les a achetés, elle a payé pour. Ça devenait une marchandise, c'était plus des déchets. C'était donc visé par le traité. Et on ne pouvait pas s'objecter à l'enfouissement sans passer par la critique et le mécanisme très, très lourd de contestation du traité qui aurait conclu qu'il aurait fallu dédommager la personne qui a acheté les vidanges pour les enterrer. En fait, c'est un des vices des grands traités de libre-échange, c'est qu'ils incrustent le capitalisme sauvage, finalement, par-dessus la souveraineté des États. Et alors, bravo, M. Feckel, lâchez pas. Et on va renégocier. On renégocie tout le temps, de toute manière.
Quelques brefs pour terminer. Je voudrais vous donner des nouvelles de nos amis de Uber. Alors, vous avez peut-être suivi ce qui s'est passé à Paris récemment. Il y a eu des violences terribles entre les chauffeurs de taxi et les détenteurs de l'application Uber, et notamment de Uber Pop. Alors, Uber Pop, vous savez, c'est ce qui permet à des particuliers d'utiliser leur voiture pour transporter d'autres particuliers contre rémunération. Et sous la pression des chauffeurs de taxi, l'application a été déclarée illégale par un arrêté du ministère de l'Intérieur. Quelle a été la réponse des deux dirigeants d'Uber Pop ? Je ne veux pas être grossier, mais en gros, ils ont dit « on vous bip, on vous emmerde ».
Oui, ils ont été mis en examen.
Ils ont été donc jetés en prison, mis en examen, et ils seront jugés en septembre en correctionnel. C'est fort intéressant parce que je crois que là, on démarre quelque chose, un grand tournant. Et en même temps, parallèlement, je voudrais vous dire que Google fait tourner ses voitures sans chauffeur en Californie. Il y en a de plus en plus. C'est peut-être ça l'avenir pour les chauffeurs de taxi.
Bon, au moment où je vous parle, je touche du bois intensément. Et si j'avais un érable dans la pièce, je sens que je lui roulerais un gros patin. Le gouvernement socialiste de l'Alberta, en fait, néo-démocrate de l'Alberta, le nouveau gouvernement de l'Alberta, donc, a lancé une mesure pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Je vous rappelle que l'Alberta émet plus de gaz à effet de serre que le Québec et l'Ontario réunis. Et pour augmenter la redevance pétrolière. On ne sait pas encore le format que ça prendra, mais rien n'est exclu pour le moment, y compris éventuellement de joindre la bourse du carbone du Québec et dans laquelle l'Ontario va pas tarder à entrer. Alors, est-ce que Rachel Notley parviendra à faire en sorte que, oui, on diminue les gaz à effet de serre? Il faut savoir ici que pour le gouvernement, c'est aussi une question de crédibilité pour l'industrie du pétrole albertain et donc de pérenniser les ventes, finalement, en le faisant de manière plus responsable.
Alors, il y a nos amis d'Uber qui évoluent, il y a d'autres amis, la SAQ, qui eux n'évoluent pas, enfin qui gagnent beaucoup d'argent. C'est plutôt sympathique, leurs profits atteignent plus d'un milliard, des profits records, qui sont en hausse de 3,1% par rapport à l'année précédente. À mon avis, ça s'explique par la qualité des sélections de vins français qu'on trouve à la SAQ. Je vous recommande d'ailleurs un nouvel arrivage, le Château Goëlon, absolument délicieux.
Parlons un petit peu des Chinois, on ne l'avait pas encore fait. Alors, les Chinois sont un peu plus riches qu'ils l'étaient. Et comment ça se traduit physiologiquement? Eh bien, sachez que les Chinois grandissent. Et oui, les Chinois ont gagné un demi-centimètre en une décennie. C'est encore un peu plus pour les femmes. Par contre, ils ont aussi, comment dirais-je, pris de l'expansion. Voilà, le Chinois moyen grossit. Ceci à cause d'un régime qui est plus carné, plus riche en protéines, parce qu'effectivement, on a les moyens de manger autre chose que des légumes maintenant. Mais si vous voulez vous mettre de bonne humeur, et je poursuis sur le même sujet, sachez que le médicament Saxenda a maintenant été approuvé en Europe et aux États-Unis. Saxenda est un médicament qui, oui, fait maigrir. Il vous fait perdre de 5 à 10% de votre masse corporelle, c'est avéré. Il ne vous empêchera pas d'être obèse et va rendre cette obésité plus présentable.
Alors, pour contredire un petit peu ces mécanismes anti-obésité, j'ai le plaisir de vous annoncer que Molson, non, le fameux brasseur, a inventé un frigo à bière qui parle. Alors, c'est assez marrant parce que vous vous mettez devant le frigo et si vous dites, par exemple, « Je suis canadien », il s'ouvre. Alors, il y a un rapport de cause à effet. C'est fabuleux. Enfin, il parle 49 langues.
Et bon, je continue dans un sujet un peu plus léger dans ce cas-là. En fait, horriblement lourd. Il y a une fuite dans le Wikileaks qui faisait état des relations entre l'ambassadeur d'Arabie Saoudite et le ministre des Affaires étrangères du Canada. On apprend que M. McKay, à l'époque, faisait des pieds et des mains pour charmer son invité, pour louer le royaume d'Arabie Saoudite, qui est, je vous le rappelle, un des pires endroits sur Terre en matière de liberté humaine. Tout ça pourquoi? Eh bien, pour le plus gros contrat de vente d'armement de l'histoire du Canada, 15 milliards, notamment pour nos blindés légers. Est-ce qu'il y a des limites à ce qu'on peut faire pour de l'argent?
Tiens, je voudrais vous donner des nouvelles du fax. Vous vous souvenez du fax, hein? Eh bien, figurez-vous que le fax, il fait de la résistance. Et apparaît 20 ans après l'avènement de la toile. Alors, on envoie moins de documents par fax, mais il continue à être utilisé. Est-ce que vous savez pourquoi? Eh bien, c'est parce que le fax, c'est le moyen de communication le plus difficile à pirater. Eh oui, alors allez vous en acheter un. Si vous voulez envoyer par exemple un document confidentiel à votre banque avec votre signature, c'est beaucoup mieux qu'une pièce jointe avec un courriel.
Tiens, je vous parle d'Italie, moi. En fait, d'Italie marine. Eh bien, sachez qu'en Ligurie, dans le nord-est de l'Italie, on fait maintenant de la culture sous-marine. Pas des algues qu'on fait pousser. Non, non, on a installé de vraies serres sous l'eau qui sont alimentées par l'air. En l'espèce, on fait pousser du basilic, semble-t-il, génère son propre oxygène. Bref, l'écosystème est tout à fait viable. Les plongeurs vont le chercher quand c'est prêt. Ça fonctionne et le basilic aurait des rendements supérieurs sous l'eau, semble-t-il, à ce qu'il a en surface. Ceci à cause du fait que sous l'eau, il n'y a pas de variation de température. Bon, alors, basilic marin au menu. Voilà, nous vous avons présenté l'édition du 2 juillet de Kiosque Magazine. Merci d'avoir été là. Merci à Rémi Hermoso d'avoir assuré la mise en onde de cette émission. Déjà le moment de se donner rendez-vous à la semaine prochaine, donc, et de céder ce micro. Merci.